Jean chapitre 12, verset 26, c'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Hébreux, où est-ce qu'il veut en venir ? Hébreux chapitre 2, lorsque j'étais à votre place, c'est la question que je me posais. Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux chapitre 2, verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'opportunité de passer quelques tests de manière à définir ma personnalité. Et donc, on vous fait remplir un QCM avec 500, 600, 700 questions. Et ensuite, eh bien, on dresse un petit peu quel est votre caractère, quelle est votre personnalité. Et chaque fois que je l'ai fait, chaque fois que Myriam l'a fait ou que des amis l'ont fait, nous avons été surpris de voir quelle était la précision avec laquelle nous étions décrits. Au travers de 700 questions, les spécialistes sont capables d'établir votre personnalité, d'établir vos qualités, d'établir vos points forts, vos points faibles, d'une manière tout à fait remarquable. Et finalement, ils apprennent, ils révèlent des choses que nous-mêmes, eh bien, parfois, nous avions enfouies et nous ne soupçonnions pas. De la même manière, ce matin, j'aimerais que l'on réfléchisse un petit peu à cette question et que nous nous interrogions à savoir qui sommes-nous avec Jésus ? De quelle manière, eh bien, et sur quelle base notre relation avec le Maître est-elle établie ? Vous avez vu que dans ces trois textes, eh bien, il y a trois noms qui peuvent qualifier notre relation. Sommes-nous dans une relation de serviteur à maître ? Sommes-nous dans une relation d'ami à ami ? Ou sommes-nous dans une relation de frère à frère ? Et on voit là qu'il y a une gradation qui est extrêmement intéressante. La base est la même, puisque la Bible nous révèle que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés parce qu'à un moment donné de notre vie, nous avons constaté, nous avons reconnu par l'action du Saint-Esprit en nous, que nous étions des pécheurs et que nous le sommes toujours, à la différence que nous sommes sauvés par grâce. Nous avons cru en la mort du Seigneur Jésus, nous avons cru que le Fils de Dieu était venu, nous avons cru qu'il avait lavé, qu'il avait pardonné nos péchés. Et à partir de ce moment-là, comme le dit l'apôtre Paul, le mur d'inimitié a été renversé, que nous soyons juifs ou païens, et une relation s'est établie entre notre Dieu et nous. Mais la question que j'aimerais que l'on se pose ce matin, c'est quelle est la nature de notre relation ? Sommes-nous dans la case A, serviteur ? Sommes-nous dans la case B, ami ? Sommes-nous dans la case C, frère ? Quelle est la nature de cette relation ? Première possibilité, nous sommes serviteurs. Et c'est ce que dira Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me serve. Là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et nous le savons, lorsque nous sommes sauvés, de manière automatique, c'est pour servir. Ce n'est pas simplement pour rester assis, pour venir à l'église, pour s'asseoir sur une chaise le dimanche matin, mais c'est avec le but de dire, « Eh bien Seigneur, d'une manière ou d'une autre, je veux te servir. Tu as mis en moi des talents, tu as mis en moi des capacités, ok, je veux y aller. » La belle-mère de Pierre, il y a cet exemple que l'on trouve dans les évangiles, à partir du moment où Jésus la délivre de cette fièvre, automatiquement, elle se lève et elle le sert. Et tous ceux et toutes celles qui ont été au bénéfice de la grâce de Dieu ont eu cette même attitude. Ils se sont levés et ils ont servi en fonction de leurs possibilités, en fonction de leurs capacités. C'est normal. Et je dirais même que c'est une nécessité pour le bien-être de notre vie spirituelle, eu égard au fait que qui nous a été donné et que donc, de ce fait, nous devons rendre. Nous savons que l'eau qui stagne a toujours tendance à attraper les bactéries, à attraper la vase, tandis que l'eau qui coule est toujours une eau de bonne qualité. Nous sommes nés pour servir. Et notre relation avec notre Dieu peut être une relation de serviteur à maître. Peut-être. Si c'est le cas, sur quoi est-elle basée ? Quelles en sont sa nature ? Deux choses. La première, si ma relation avec mon Dieu, ce qui n'est pas mauvais en soi, est une relation de serviteur à maître, ça peut être parce que le serviteur désire une rémunération en retour de son travail. Lundi matin, vous vous levez, vous allez travailler, vous allez servir un maître qui s'appelle patron. Ça a un but, c'est pour avoir une rémunération. Même si vous aimez votre travail, même si vous aimez votre patron, il n'y a strictement aucun problème là-dessus, que vous priez pour lui régulièrement. Mais si à la fin du mois le chèque ne vient pas, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parfois, notre relation avec Dieu peut être basée sur le même principe. Nous le servons un petit peu comme le fils aîné du fils prodigue, le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Nous sommes dans la maison, nous servons le maître. Et puis un jour, on se réveille et on dit, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? J'ai rien eu en retour. Je sers mon maître parce que j'attends quelque chose de lui. Je sers mon maître parce que j'attends une bénédiction en retour. Je sers mon maître parce que je veux qu'il me guérisse, parce que je veux qu'il me rende prospère, parce que je veux qu'il multiplie mon compte en banque par 100, par 150, qu'il me fasse gagner à l'euro million, enfin bref. Je sers mon maître dans un but. Je sers mon maître afin qu'il me sauve. Nous savons que ce n'est pas le bon fondement. Je sers mon maître parce que je veux qu'il me bénisse. Je sers mon maître pour ressentir l'amour de Dieu. De la même manière qu'un enfant peut vouloir faire des tas de choses pour son père ou pour sa mère de manière à être aimé de lui. Parce qu'il ne se sent pas aimé de lui. Nous sommes dans une relation de serviteur à maître. Même si nous devons rester des serviteurs sur cette terre, parce que le maître nous le demande, nous ne devons pas forcément avoir la mentalité du serviteur ou la mentalité de l'esclave. Deuxième raison pour laquelle nous pouvons servir le maître, c'est parce que nous avons peur. Peur de nous faire renvoyer. J'avais un de mes anciens employés qui était ainsi. Chaque fois qu'il venait me voir, je sentais qu'il avait peur d'avoir mal fait. Il vivait dans la peur qu'à un moment ou un autre, je lui tape sur les doigts. C'était quelque chose de palpable et de visible. Quand j'avais beau le rassurer, rien n'y faisait. Il avait tout le temps peur. Parfois, il y a des chrétiens qui s'approchent de Dieu et qui servent Dieu avec cet état d'esprit-là. La peur de mal faire. Et si jamais je pêche aujourd'hui, qu'est-ce que mon Dieu va dire? Et si jamais je fais mal ci? Et si jamais je fais mal ça? Et si jamais je vis dans cet état d'esprit? Si jamais... Ah là là là! Et puis finalement, on a tellement peur de ce que l'on est censé mal faire qu'on ne fait plus rien. Ou alors qu'on le fait mal. Vivre dans une crainte et servir Dieu par crainte. On peut même se convertir par crainte. Donner sa vie à Dieu par crainte de la mort. Donner sa vie à Dieu par crainte de son retour, etc. C'est bien. Mais je pense que notre relation avec Dieu, et Jésus le dira, et ça fera une excellente transition, dira je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Mais je vous appelle ami. Nous avons pu avancer dans une relation de serviteur à maître et Dieu ne nous en veut pas. Et mon frère, ma sœur, si tu es dans cette relation-là, dans ce sentiment-là, ce n'est pas la peine de sortir. On t'acceptera encore. Tu peux rester, tu peux même revenir, il n'y a aucun problème. Et tu as même ton accès auprès de Dieu. Dieu t'aime. Comme ça, dans cette relation-là, il n'y a pas de problème. Simplement, il te dit, franchis une marche. Franchis un cap. Tu n'es pas que mon serviteur. Tu n'es pas que ma servante. Et on sait que serviteur, en grec, c'est une connotation qui est encore plus négative. Esclave, doblos. Tu n'es pas mon esclave. Mais tu es mon ami. Tu es mon ami. C'est bien que tu me serves et continue de le faire. Mais un petit peu comme l'esclave de Exode 21, vous savez, qui a reconnu qu'il aimait servir son maître. Et au bout de 7 ans, il a la possibilité de partir. Mais il va dire, non, moi je partirai pas, parce que j'aime mon maître. Alors je vais aller à la porte de la ville, et puis tu vas me la poinçonner, cette oreille-là. De manière à vraiment, eh bien, que j'ai ce signe d'appartenance. Passe le cap. Et que ta relation de serviteur à maître évolue dans une relation d'ami à ami. Nous pouvons être des amis de Dieu. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Nous pouvons être des amis de Dieu. Et c'est une belle relation que l'amitié. Parce qu'elle tisse des liens forts. Le livre des Proverbes au chapitre 28 et au verset 18 pardon, et au verset 24 dira « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Un véritable ami a quasiment la même valeur qu'un frère. Et là, le livre des Proverbes traduit de manière très emphatique en disant « a même plus de valeur ». C'est une formule de style. C'est un privilège sur cette terre que d'avoir des amis et nous aurions tort de nous en priver. Le livre des Proverbes au chapitre 17 au verset 17 dira que l'ami aime en tout temps, ou du moins le véritable ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 12 verset 26, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Si les amis ne sont pas capables de montrer la bonne voie, qu'est-ce que feront nos ennemis? Et je suppose que vous êtes comme moi, vous attendez d'un ami qui me dise les choses que je fais bien et les choses que je fais mal. Et qui me disent, attends, là tu débloques. Et non pas qu'ils soient toujours d'accord avec moi. Et le véritable ami est ainsi, et donc c'est un privilège. Et Jésus est notre ami. Je ne vous ai pas appelé serviteur, mais je vous ai appelé ami. Et je vous l'ai prouvé. Proverbe 27,6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et dites-moi, Jésus l'a pas prouvé son amitié à la croix pour nous? Au travers de ses blessures, au travers de ses meurtrissures? Je t'ai prouvé que j'étais ton ami. Hein? J'ai tout fait pour que tu sois mon ami. Mais non, reste pas moins que l'amitié, c'est une relation, c'est un sentiment qui est profondément humain, non? Qui est profondément humain. Parce que, avec tout ce qui en découle, les fonctions des circonstances, David et Jonathan ont été amis de manière tout à fait extraordinaire. Et ça a été quasiment instantané d'ailleurs, leur amitié. Puis il est venu le temps où David a dû quitter le palais de Saül. Et là, l'amitié, elle s'est cassée dans les faits, même si ils sont restés dans le cœur l'un de l'autre, nous pouvons en être sûrs. Mais les amitiés sur cette terre, elles sont susceptibles de se casser. Les amitiés sont fonction des influences. On connaît le récit des Actes des Apôtres entre Paul et Barnabas, etc. Barnabas qui était allé tendre la main d'association à Paul alors qu'il était en exil, qui l'avait vraiment ramené dans le circuit. Ils avaient voyagé, ils avaient connu des choses extraordinaires ensemble. Et pourtant, avec le conflit qu'il y a eu à propos de Jean-Marc, l'amitié en a pris un petit coup. Elle fonctionne de l'autre, de ce que l'autre demande. On voit que même si l'amitié est quelque chose de glorieux et quelque chose d'extraordinaire et qu'elle a énormément de valeur, il n'en demeure pas moins que c'est fragile. Même notre amitié vis-à-vis de Dieu peut dépendre des circonstances. Ça ne vous est jamais arrivé ? Tout d'un coup, on se sent un petit peu moins ami de Dieu. On n'a plus envie d'aller faire les soldats avec lui. On n'a plus trop envie de le voir d'ailleurs. On ne répond plus aux textos. On a du mal à répondre à ses mails. On n'est plus amis. Quelque chose qui est cassé. Parce que les circonstances ont fait que. Il y a eu une dispute. On a changé. Et on croit que lui aussi a changé. Le problème, c'est que lui ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, restant doctrinal. Tout d'un coup, on s'est un peu moins amis. Et là, on se dit que finalement, l'amitié est une belle relation. Et que peut-être que notre Dieu veut que nous soyons plus. Vous savez, Jésus accepte que nous soyons ses amis et c'est déjà une très bonne chose, c'est déjà glorieux. Mais ce que Jésus veut que nous devenions réellement, c'est Hébreux 2:11. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Je reste le frère de ma sœur ou le frère de mon frère sur cette terre, qu'il le veuille ou non. Que les circonstances soient favorables ou non, qu'on se parle ou non, je reste son frère et elle reste ma sœur. Nous sommes unis par les liens du sang. Je suis le frère de mon maître. Je suis le frère de Jésus. Parce que je suis uni par les liens de son sang. Parce que dans mon corps spirituel, ce qui m'a fait renaître, c'est le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Et ça, rien ne peut y changer. Les paroles accusatrices du diable, qui te dit tu ne vaux rien, ne peuvent rien y changer. Je suis frère. Les circonstances de la vie qui me font perdre de vue, peut-être, mon objectif, n'y changeront rien. Je suis ton frère. Il est mon frère. Nous avons le même Père. Dieu nous a voulu, non ? Et il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Et là, on se dit, c'est un fantasme. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça vous est jamais arrivé à être vieux, c'est-à-dire 35 ans, etc. C'est comme ça que je voyais les gens quand j'avais 18 ans. Moi, 35 ans, j'étais vieux. Maintenant, j'en ai 35, fais-moi le malin. Vous dire, mais... Boudu, qu'est-ce qui ressemble à son père ? Et là, on se dit, c'est pas possible. Mon père, il a les cheveux blancs, il a des rides partout. Puis bon, il est comme ci, il est comme ça, il est un peu voûté. Et puis, on ressort une photo du père au même âge. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, on s'aperçoit qu'il a les mêmes petites fossettes. On s'aperçoit que, avec moins de rides, effectivement, il y a un air de ressemblance. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on lui ressemble. Ça nous fait plaisir, ou pas vraiment, mais c'est comme ça. Avec Dieu, c'est le processus inverse. Dans 20 ans, on regardera la photo, et puis on se dira, ah ben c'est vrai que je lui ressemble un peu plus quand même. Et que la ressemblance qui était en nous, eh bien, elle rejaillira. Nous avons le même Père. Nous avons le même héritage également. Je passe rapidement. Quelque part, Jésus est notre frère aîné. Et il a l'impact sur nous. Il marque notre vie de sa personnalité. De la même manière que les aînés dans les familles ont toujours un rôle un petit peu paternel. Nous sommes ses frères. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Personne. Vous savez quelle est la grande différence entre un ami et un frère ? C'est qu'un ami ne donnera jamais sa vie pour vous. Un ami vous comprendra. Un ami souffrira avec vous. Un ami pleurera avec vous. Mais la barrière s'arrête là. Un frère donnera sa vie. Jésus n'a pas été que notre ami, il a été notre frère. Et petite parenthèse, lorsque Jésus prononce ces paroles de Jean 15:15, il était encore en train d'accomplir la loi. Il était encore sous l'ancienne alliance. L'épître aux Hébreux est écrite après la mort de Jésus. Si l'ancienne alliance nous laissait amis, la nouvelle nous institue frères. Il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Je ferme la parenthèse. Mon frère a donné sa vie pour moi. tant que je suis un ami de Dieu ou un ami de Jésus. Cette notion d'offrir ce que je suis, je la connais. Elle est dans ma tête. Mais j'ai parfois un peu de mal à la vivre. Par contre, à partir du moment où je rentre dans cette dimension, me dire « Jésus est mon frère », alors il se passe quelque chose. C'est que tout devient plus simple et qu'effectivement on s'offre, effectivement on se donne. Alors, conclusion. Jésus aurait pu avoir honte de nous. Il aurait pu avoir honte de moi. Pauvre drogué, perdu. Mais il n'en a rien fait. Il a vu la valeur qui était enfouie et qui est encore bien enfouie. Puis il a gratté, il continue à gratter, vous n'inquiétez pas. Il était fier de nous. Alors qui sommes-nous? En sachant que nous sommes tous sauvés. À partir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus. Mais si nous sommes honnêtes intellectuellement avec nous-mêmes, et ce que vous allez dire dans votre tête, seul Dieu l'entendra. Votre femme ne l'entendra pas, votre mari ne l'entendrait pas, et moi non plus je ne l'entendrai pas. Si nous sommes honnêtes, de quelle nature est notre relation avec Dieu? Serviteur-maître, ce qui est bien déjà, hein? Je fais les choses pour avoir quelque chose, mon salut, pour avoir la bénédiction, ou parce que j'ai peur de mon Dieu. Ok. On s'aperçoit que, voilà, il manque quelque chose quand même, hein? Et qu'on ne tiendra peut-être pas toute la vie comme ça. On risque de se fatiguer au bout d'un moment. Parce que Dieu n'est pas un distributeur à bénédiction. Deuxième type de relation, donc là je suis dans la case B. Ma relation est une relation de ami à ami. Ce qui est bien, ce qui est glorieux, je suis ami de Jésus, mais attendez, je veux dire que c'est quelque chose de profondément étonnant quand même. Ami du Dieu très haut. Il n'y a rien de dévalorisant à ça. Hein. Ne nous trompons pas. Mais on sait que cette relation d'ami à ami,